Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Il s'appelle Georges Focus, vous ne connaissez pas ce nom. Il surgit à l'occasion d'une exposition au Palais des Beaux-Arts à Paris comme une planète inconnue et complexe. Il nous étonne, nous surprend. Il est né au milieu du XVIIe siècle et mort dans les premières années du XVIIIe. Reçu à 30 ans à l'Académie royale de peinture et de sculpture, il aurait pu devenir une des figures de l'art du paysage de son époque. Mais rapidement enfermé aux petites maisons, nous dirions aujourd'hui dans un asile d'aliénés peut-être, il réalise pendant quelques années des dessins pleins de verve, de liberté, d'anecdotes, des dessins surprenants de virtuosité et d'érudition. Ces feuilles qu'il appelle ses écritures dessinées sont emplies de textes. La langue, l'écriture se glisse partout, à l'envers et au revers. Et l'ensemble nous fait découvrir un artiste quasiment inconnu à la richesse immense. C'est une découverte. Un grand singulier comme le furent Richard Dade ou Théophile Bras, un grand artiste, prisonnier car devenu fou. Mais fou, est-ce le bon terme? Pour en parler, je reçois Emmanuelle Brugerolles, conservatrice générale du patrimoine, commissaire générale de cette vaste exposition et directrice de l'énorme ouvrage qui l'accompagne. Et je reçois également Bernard Granger. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Vous allez bien?
Pas trop mal.
Bon, vous êtes professeur de psychiatrie à l'université René Descartes et co-auteur du catalogue. Vous êtes aussi co-fondateur et co-rédacteur en chef de la revue Psychiatrie Sciences Humaines. Vous avez écrit un livre en 2015 qui a fait du bruit, ça s'appelait Les Borderlines, je crois.
C'est exact.
C'était chez qui?
Chez Odile Jacob.
Odile Jacob. Et vous en préparez un autre, je crois.
Toujours pour Madame Odile Jacob sur le système de santé. Donc ça nous éloigne un petit peu du sujet.
Est-ce que vous ne collaborez pas à une exposition pour la Villa Médicis?
Absolument, une exposition qui va s'ouvrir dans ces tout prochains jours, qui s'appelle Le Violon d'Ingres. Et on m'a demandé quelques réflexions à propos de cette exposition.
C'est une jolie idée.
Madame Chiara Parisi.
C'est une jolie idée, ces artistes qui ont d'autres activités. Pas mal.
Oui, on connaît Victor Hugo et ses dessins, mais il y a beaucoup d'autres artistes. Et cette exposition est particulièrement riche et intéressante.
Bon, alors ça sera quand? Ça sera en novembre?
Oui, je crois que le vernissage a lieu le 1er novembre, à la Villa Médicis.
Emmanuelle Brugerolles, vous travaillez pour ce Palais des Beaux-Arts, vous y faites des expositions. Il y avait Durer et son temps?
Il y a quelques années, oui.
Il y a quelques années, et qu'est-ce que vous préparez?
Je prépare une petite exposition sur nos dessins italiens à l'époque de Léonard. On présentera nos Léonard, nos Lippi, nos Raphaël pour le 24 janvier.
Alors je serais curieux de vous faire entendre et réagir peut-être sur un texte d'un personnage que vous connaissez mieux que nous, mais qui avait essayé de faire une sorte d'inventaire pour amateurs des peintures singulières. Il s'agit de Pierre-Jean Mariette. Pierre-Jean Mariette, nous sommes au XVIIe siècle, début du XVIIIe, et je crois qu'il est né vers 1694 à peu près, début du XVIIIe siècle, et il parle de notre héros du jour, Georges Focus. Écoutons-le.
Focus, Georges. De Châteaudun, peintre de paysage de l'Académie royale, mort fou le 27 février 1708, renfermé aux petites maisons. J'ai vu un recueil de dessins qu'il avait fait dans les accès de sa folie, où parmi mille extravagances, il y avait des morceaux de paysage dessinés d'assez bon goût. C'était en 1694. Ce recueil, tronqué de toutes les obscénités dont il était rempli, est passé en Prusse. Et il n'y a pas grande perte. Pierre-Jean Mariette, Abécédario, 1853.
Emmanuel Brugerolles, ce texte apparaît dans votre énorme catalogue, Georges Focus, La folie d'un peintre de Louis XIV, publié par les Beaux-Arts de Paris. Et on ne peut pas dire que ce fameux Pierre-Jean Mariette fasse un compliment dans son abécédario sur cet artiste.
Alors c'est d'autant plus intéressant, c'est que Mariette est aussi un très grand collectionneur. Et il collectionne les dessins italiens, les dessins français, et ce sont des chefs-d'œuvre qu'il collectionne. Et ces dessins ont dû le déranger profondément. Et en effet, il les dérange parce que ce sont des dessins inhabituels pour des dessins français du XVIIe siècle. On pense à Poussin, à Le Sueur, à Lebrun. On est loin de tout ça. Et justement, il estime que ces dessins sont beaucoup trop extravagants et que, bon, bien sûr, il y a quelques éléments de paysage qui sont pas mal, mais que finalement, il n'y a pas grande perte. Mais Dieu merci, on ne les a pas jetés.
Et donc on peut les voir en ce moment. Et cette exposition que vous faites, c'est une découverte, une révélation? Tout le monde le connaissait? Votre milieu de spécialiste était parfaitement au courant? Ou bien c'est une révélation?
C'est une révélation et je pense qu'elle est très importante parce que des dessins d'un artiste absolument confirmé, académicien, qui en 1683 devient fou et fournit une production de cette envergure, c'est une découverte. On ne connaît pas d'autres exemples.
Bernard Granger, vous êtes d'accord sur l'emploi de ce mot « fou » ?
C'est un terme que je n'aime pas beaucoup utiliser. Mais bon, c'est le terme consacré dans le langage courant. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait des troubles mentaux. Ça, c'est évident au premier coup d'œil, si vous voulez. Les dessins eux-mêmes, leur composition, mais surtout pour le clinicien qu'on a sollicité, c'est surtout les textes qui sont frappants parce que la façon dont ils sont disposés et leur hermétisme, pour simplifier, sont très caractéristiques de ce qu'on peut voir chez des patients d'aujourd'hui.
Est-ce que, lorsqu'on dit qu'il était enfermé aux petites maisons, qu'est-ce que c'est les petites maisons ?
Alors, les petites maisons, ce serait comme une clinique psychiatrique aujourd'hui. C'était un établissement situé là où est le square Boussicault. Et les personnes qui avaient certains moyens...
Ils juste à côté de la rue de Sèvres, en fait, c'est
voilà,
ça
ouais. Voilà, c'est à l'angle de la rue de Sèvres
et de la rue du
boulevard Raspail et de la rue du Bac. Mmh. Devant le Bon Marché, pour préciser.
C'est la grande épicerie de l'époque, quasiment.
Alors, je ne sais pas ce qu'on y vendait, mais on pouvait acheter des chambres, un séjour. Enfin, il fallait payer une pension, donc c'était réservé à des personnes d'un certain milieu ou ayant certains moyens, puisque sinon, vous étiez interné à Bicêtre, si vous
là,
étiez un
le...
homme, ou la Salpêtrière, si vous étiez une femme.
Ça, c'était le grand renfermement au sens foucaldien.
Voilà, voilà. Encore que ce terme soit très contesté, puisqu'il semblerait que ce soit plutôt dans les années 50-60 du XXe siècle, qui a eu le plus grand nombre de personnes enfermées. Mais on ne sait pas bien quelles étaient les conditions de vie de Focus aux petites maisons, mais ce qui est certain, c'est qu'il avait à sa disposition de quoi dessiner, et qu'il n'était pas enchaîné, enfin il n'était pas dans une condition abominable, ou très difficile, comme pouvaient l'être ses contemporains dans d'autres établissements.
Alors Emmanuel, cet artiste fait des études d'art, il va en Italie, vers quelle époque ?
Alors ça on le sait précisément, bon, sa date de naissance reste un petit peu mystérieuse, puisqu'on n'a pas retrouvé son acte de naissance à Châteaudun. On suppose qu'il est né vers 1644, et on sait alors en revanche qu'il est allé en Italie entre 1666 et 1669.
Donc là, en pleine forme mentale. Il était au milieu des grands artistes de son époque.
Oui,
c'était
oui.
Qui les grands artistes de son époque?
Oh ben, notamment, il parle de Poussin dans ses écrits, Duguay. Il rencontre aussi des Italiens comme Rosa, Testa.
Salvador Rosa, vous voulez dire.
Oui, oui, Salvador Rosa et Pietro Testa, il les fréquente et il côtoie toute cette culture baroque.
Donc il est parti pour être un des artistes importants en France, qui a fait ce fameux voyage en Italie, le Grand Tour en quelque sorte.
Et puis ça va l'être, puisque quand il revient, Il est reçu à l'Académie en 1675. Il fournit son morceau de réception et il entre à l'Académie.
Donc à ce moment-là, il est plein d'espoir et nous sommes pleins d'espoir avec lui. Qu'est-ce qu'il peint ?
Alors il est reçu non pas comme peintre du grand genre, c'est-à-dire pas comme peintre d'histoire, mais comme paysagiste. Et il fait des paysages à la Duguay, des paysages un peu idylliques.
C'est une époque quand même où le paysage apparaît comme un grand sujet, Claude Lorrain par exemple.
Claude Lorrain qui reste en Italie.
Oui, mais c'est un grand sujet.
C'est un artiste très reconnu à Paris de son vivant. Donc il va produire des paysages, il va être notamment commandité pour peindre des paysages à Versailles. Donc il va à Versailles, il travaille à l'époque de Louis XIV.
Et alors Bernard Granger nous parlait de sa vie enfermée, puisque je crois qu'il va passer près de 40 ans, plus de 40 ans je crois, dans ses petites maisons.
On ne sait pas, on peut en sortir aussi, voilà, on n'est pas absolument forcément enfermé toute sa vie.
Et vous ne montrez pas dans l'exposition le travail d'artiste académicien.
Si, on le montre à travers des dessins et des eaux-fortes, oui, puisqu'il a produit à ce moment-là des dessins et des eaux-fortes, mais nous ne conservons plus aujourd'hui de paysages peints.
Mais objectivement,
et mon grand espoir, c'est que pendant l'exposition, une dame ou un monsieur arrivera avec une petite photo et me dira « Voilà, j'ai une peinture de Focus chez moi. »
Est-ce qu'il n'y a pas eu des paysages néanmoins peints par Focus qui auraient été remarqués par des historiens ? Je pense Pierre Rosenberg, m'aviez-vous dit, non ?
Pierre Rosenberg,
qui était l'ancien président du Louvre.
Bien sûr, non, Rosenberg avait des mentions dans sa documentation de dessins qu'on a retrouvés.
Qu'on a retrouvés.
En revanche, des tableaux, il y en a un qui est mentionné dans nos archives, qui est le morceau de réception, et qui disparaît des inventaires à la fin du XVIIIe. Beaucoup de paysages de cette époque ont disparu.
Beaucoup de noms se sont évanouis également, sincèrement, les grands artistes de l'époque, il nous en reste peu dans nos mémoires.
Voilà, et donc là, c'est vraiment une résurrection.
Bon, bravo pour l'avoir organisé. Normalement, c'est réservé au Saint-Esprit, mais c'est bien joué, néanmoins. Juste encore une question avant que nous rentrions dans le détail de ces choses, puisque dans l'exposition, néanmoins, le coup de tonnerre, si j'ose dire, c'est quand même ces fameuses pages dessinées, ces écrits dessinés. Comment est-ce qu'ils les appellent exactement ?
Les écritures dessinées.
Les écritures
c'est
dessinées.
C'est merveilleux comme expression.
L'expression est extrêmement belle. Donc, décrivez-les-nous un petit peu. Et puis ensuite, je voudrais que vous décriviez plus précisément l'une d'entre elles dont parlait Bernard Granger à l'instant. C'était celle qui décrit, au fond, son mode d'existence à l'intérieur de ces petites maisons.
Tout d'abord, je dirais qu'il y a deux corpus. Un corpus qui est conservé à l'Université d'Édimbourg, qui rassemble environ 80 dessins, et un ensemble de 25 feuilles qui sont conservées dans une collection particulière parisienne et qui y sont depuis le XVIIIe siècle. Donc cet ensemble est transmis de génération en génération et dormait dans une boîte avant que ces collectionneurs m'appellent pour que je vienne voir ces œuvres. En fait, cela faisait sans doute partie d'un seul album qui, à un moment donné, a été démembré. Alors, ce qu'il faut constater dans ces feuilles, c'est qu'elles sont très ambitieuses. Ce sont de grands formats, format portrait. Les dessins sont toujours dessinés par un graphite, une première esquisse, et ensuite une plume, encre brune, qui couvre entièrement la feuille avec un sujet que l'artiste appose sur son papier.
Et donc, là, le premier dessin, vous l'avez regardé vous-même, Bernard, on n'a pas l'impression, effectivement, qu'il est dans un asile. C'est une chambre plutôt luxueuse.
Oui, absolument. C'est pour ça que les petites maisons, c'était un lieu privilégié. Et je crois que la meilleure comparaison, c'est avec une clinique, parce qu'actuellement, en clinique privée, vous avez une certaine aisance, un certain confort. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à l'époque, les moyens thérapeutiques étaient finalement très très limités. Donc c'était un peu, je vais dire, du gardiennage, c'est beaucoup dire, mais enfin, il n'y avait pas les psychothérapies, il n'y avait pas les médicaments. Donc le patient finalement était en résidence. On parlait de la Villa Médicis tout à l'heure, était en résidence. Mais là, ce n'était pas à Rome, c'était près de la rue de Sèvres.
Alors, lorsque l'on voit cette chambre, on le voit en train de peindre, quasiment.
Alors, je reviendrai d'abord sur le terme d'écriture dessinée pour bien expliquer en fait comment s'organisent ces dessins. C'est-à-dire que vous avez une scène qui apparaît sur la feuille, mais vous avez aussi un accompagnement, je dirais littéraire, c'est-à-dire qu'il y a un texte qui s'inscrit dans un phylactère, on dirait aujourd'hui une bulle, et il y a des textes écrits par Focus qui sont en alexandrin. Donc ça, c'est quand même assez étonnant, donc cette association de composition et de texte.
Et donc, décrivez-nous cette cette pièce,
tout d'abord, vous avez un premier plan où vous avez un monsieur à moitié nu qui est en train de jouer de la lyre et qui est sans doute ce fameux Focus conteur. Il a tout un attirail autour de lui qui est une palette de peintre, une épée, une louve, une urne pour évoquer le Loir qui coule à Châteaudun ou le Tibre qui coule à Rome.
Alors ça, c'est typiquement une figure totalement classique que l'on voit toujours dans la peinture du XVIIIe.
Qui sert d'abîme à la scène du second plan. Et au second plan, vous avez notre Focus s'habillant dans une très belle robe de chambre qui parle à son petit oiseau qu'il appelle son tarin et qui couvre souvent sa tête avec une petite étoile. Et donc, il est en train de lui parler dans un espace, une salle avec une fenêtre où il y a des barreaux. Et dans cette chambre, vous avez un chevalet sur lequel est posé un tableau. Et ce tableau représente un paysage. Donc, il se définit bien comme ce paysagiste de l'Académie royale. Et puis, vous avez un lit dans un coin avec une alcôve sur lequel est posée une guitare.
C'est un double portrait, en fait, parce qu'il apparaît deux fois.
Il apparaît très souvent deux fois dans ses compositions, c'est-à-dire en tant que conteur. Voilà, je vais vous raconter une histoire. Et puis, il est le héros de toutes ces scènes. Et là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que soit il se met en scène lui-même avec des anecdotes biographiques, soit il se transforme, il endosse des personnalités variées, qui est le roi, bien sûr, aîné, empereur, etc.
On va commencer à donner du travail à Bernard, je pense, dès qu'on va rentrer dans ces dédoublements de personnalités. J'aimerais bien vous faire écouter néanmoins un texte. Alors, c'est un des textes que je trouve les plus faciles à lire, car très rapidement, il va y avoir des passages du coq à l'âne, des jeux sur les allitérations, une invention sonore extraordinaire. C'est un des textes assez compréhensible, je trouve, mais déjà éclairant, qui est lié à un dessin extraordinaire où on voit un escalier et ça se rappelle la chute dans l'escalier. Et visiblement, il y a une dame dans l'affaire. Et je vous propose d'écouter, donc cette fois-ci, c'est la prose de l'artiste et qui est très impressionnante déjà.
La surprise des dames imprévues nous cause fort souvent des douleurs de leur vue. Comme il m'arriva le soir en cet endroit, d'une lumière que tenait la Marguerite Thiriette. La jeunesse des garçons est de ne pas laisser quelque bonne fortune lorsqu'elle se présente et qu'elle est opportune. Comme il m'arriva enfin ce soir, qui cette dame va chercher mon camarade de sa lumière, ou bien moi pour me voir? Ce qui fit que de cette lumière non accoutumée, qui me cherchait en haut, que je crus qu'elle avait pour moi quelque pensée. Ce qui fit que je descendais donc pour cette clarté, mais sa porte d'en bas fermée me fit casser la tête par son incivilité. Peut-être en elle aussi de propos prémédités. Quoique le fils d'un roi dedans le basement méritât en cet endroit un autre traitement.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons d'un personnage inouï qui fait l'objet d'une exposition, Georges Focus, la folie d'un peintre de Louis XIV. Et je suis avec Bernard Granger, professeur de psychiatrie, et Emmanuel Brugerolles, qui est la commissaire de l'exposition, et nous parlons de cette révélation, l'apparition de Georges Focus, comme ça dans notre inventaire de génies méconnus. Bernard Granger, vous avez entendu ce texte. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout de la prose, ce sont des alexandrins. On entend un passage très amusant, un peu leste, ou renversé par l'apparition d'une jeune femme dont il espérait retenir l'attention. Le voilà qui fait une grave chute dans l'escalier. Est-ce que déjà vous sentez des incohérences, quelque chose qui nous met sur une piste d'une particularité ?
Alors, il est certain que dans ce texte, comme dans beaucoup d'autres, il y a une espèce de ludisme et de désinhibition, notamment pour tout ce qui touche les questions sexuelles, et il y a même certains dessins qui ont été expurgés, si on peut dire. Mais les incohérences les plus flagrantes ne se retrouvent pas dans les alexandrins plus ou moins réguliers écrits dans les phylactères. Ils se retrouvent au dos des dessins, où là, probablement à une autre époque, Focus a couvert la page d'écriture de textes, mais qui sont beaucoup plus hermétiques et beaucoup plus complexes.
Ça m'a intéressé beaucoup, parce qu'on a l'impression qu'il y a, sur la face des dessins, à l'avers, il y a des textes qui tentent d'être dans la démonstration de sa réalité, de son lien au réel, même si leur continuité est approximative. Et au dos, c'est comme si c'était l'aveu de sa situation, et on arrive à des textes d'ailleurs extraordinairement beaux, mais très 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 libres.
Oui, on sent que ça n'a pas du tout été écrit à la même période. C'est-à-dire qu'au dos, il y a le titre du dessin, il y a parfois quelques explications, et après, il y a une marée de textes dans tous les sens d'ailleurs, et ça c'est très caractéristique, on le voit beaucoup dans les siècles qui ont suivi chez les patients psychotiques. Et là, il y a des passages qui sont vraiment totalement incompréhensibles. Il y a d'autres passages où on relève la sémiologie traditionnelle de ce que nous appelons les troubles du cours de la pensée. Et pour moi, ça a été des repères sémiologiques précieux et en même temps évidents et trop faciles. Je dirais que pour affirmer que Focus était fou, pour prendre le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, et moi, on m'a demandé de faire un diagnostic rétrospectif, donc avec les termes d'aujourd'hui, comment qualifier cette folie. La sémiologie psychotique est éclatante, mais au dos, sur les phylactères, bon, c'est beaucoup plus subtil. Il y a parfois des choses un peu bizarres, mais on arrive malgré tout à suivre le thème, à suivre ce qu'il veut dire, alors qu'au dos, la plupart du temps, on peut se livrer à toutes les interprétations qu'on veut, mais ça reste des interprétations et des hypothèses très osées.
Emmanuel Brugerolles.
Ce que vous disiez aussi, Bernard, quand on étudiait ces dessins, c'est que l'écriture elle-même est différente.
La cursivité.
Ah oui, oui, au recto, on lit assez facilement, alors qu'au verso, on n'arrive plus à lire.
Vous avez tout à fait raison, j'ai remarqué cela aussi. Et je trouve que, du coup, on a l'impression que l'écriture de l'avers est dessinée, en fait. C'est une écriture qui est dessinée,
oui,
ce n'est pas tellement une écriture écrite. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant qui apparaîtra chez Magritte plus tard, par exemple. Enfin, l'écriture dessinée, c'est déjà une idée magnifique.
Ah oui, magnifique et tout à fait contemporaine.
Et tout à fait contemporaine. Mais d'ailleurs, c'est au fond ce qui vous intéresse, je suppose, aussi chez cet artiste, c'est que sa situation psychologique, que je préfère ne pas caractériser, l'amène à des états limites qui lui permettent d'explorer plus loin les répertoires de formes qui sont à sa disposition.
On dirait presque, si vous voulez, qu'il s'est libéré des codes académiques. Voilà, maintenant, c'est terminé. De toute façon, j'ai tellement de rancœur avec l'Académie royale. Ils m'ont fait tellement de mal que moi, maintenant, je fais une œuvre.
Oui.
Et je choisis de faire cette œuvre-là. Je trouve que c'est ça qui...
Vous voulez dire que prisonnier de son hôpital, il est devenu libre?
Ah oui, il est libéré des codes académiques et il se lance dans une œuvre. Parce que en dehors de cette folie, c'est réducteur finalement. Il y a bien autre chose.
Alors, je vous propose d'écouter un des textes qui est à l'envers du cauchemar dont vous parliez tout à l'heure, Bernard. Et c'est un des textes qui, pour moi, me fait penser quasiment à un texte d'Artaud. On approche de la poésie sonore d'une façon très singulière. Écoutons-le.
Une mène à avancer dans le milieu du globe qui les a montrés, balance et snalablabé, babibib, et balance, bilance, balance, bilance, balance, et snal objet, pêche, corbi, pêche, et snaleb, et snalub, et snaleb, et snalib, libé, labé, lubé, lébé, le curbon, roi, soleil, le soleil, et la lune, balance, jour et nuit, et la lune, os.
Et Et voilà ce texte dadaïste extraordinaire. On a l'impression que c'est Hugo Ball disant Caravane, donc en 1917 au Cabaret Voltaire. Eh bien non, nous sommes au XVIIIe siècle avec Georges Focus et vous, vous êtes sur France Culture, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et je suis avec Bernard Granger et Emmanuel Brugerolles et nous parlons de cet extraordinaire artiste redécouvert, Georges Focus, La folie d'un peintre de Louis XIV. Je vous en prie Bernard, je sens que vous avez quelque chose à nous dire.
Absolument, alors Emmanuel Brugerolles a dit une chose très vraie, si il ne faut pas réduire Georges Focus à sa maladie mentale, parce que la créativité dont il fait preuve en s'affranchissant des règles est absolument extraordinaire, plus dans les dessins je dirais que dans les textes, mais même les textes ont ce caractère tout à fait étonnant et moderne que vous avez souligné. Vous parliez d'Artaud, et d'une certaine façon, on peut faire quelques rapprochements. Bon, c'est toujours osé de faire ce genre de choses.
Mais on peut se permettre ici, on peut y aller.
Bon, ben alors allons-y. Quand on regarde la façon dont Artaud a été lui-même interné pendant de très longues années, pendant ces années, il n'a quasiment jamais cessé de produire des dessins, d'ailleurs, et des textes, des lettres. Or, Focus, du moins les œuvres dont nous disposons, semblent avoir été créées sur une période assez courte. Mais rien n'indique qu'il n'ait pas créé de façon continue, parce qu'on n'a pas du tout on a perdu la trace. Et quand je parlais
je vous interromps, oui, parce que je voudrais savoir, là, ce dont nous parlons, c'est-à-dire ces écritures dessinées, ça a duré combien de temps à peu près?
Ah bah en tout cas, on n'a sans doute pas la totalité.
Mais ce que vous avez, ce que vous présentez...
Alors
vous...
on a des dates.
Oui.
1693 jusqu'en 1703.
D'accord, donc on est sur 10 ans en gros. Hein, donc,
mais peut-être qu'il y en a eu d'autres.
Mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Mais nous sommes capables d'en montrer sur 10 ans.
Oui.
Et effectivement, Bernard, ce que vous dites, c'est que probablement, rien n'empêche de penser qu'il ait pu continuer.
Voilà, rien n'empêche. Alors il y a une anecdote à propos d'Antonin Artaud. Quand il était à Ville-Évrard, c'est l'hôpital psychiatrique où il est resté le plus longtemps, depuis plusieurs années, il dessinait, et les infirmiers mettaient ça à la poubelle en considérant que ça n'avait aucune valeur, alors que c'était probablement des dessins qui avaient au contraire une grande valeur.
Focus se plaint de ça aussi, hein.
Oui, parce qu'on lui a volé, on lui a volé ses dessins.
Voilà, Focus se plaint. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est pas vrai? Mais il se plaint.
On le sent assez nettement. On sent que quand il s'en plaint, on a l'impression que effectivement il a retiré ses feuilles, parce que ses feuilles, il les considérait vraiment comme des œuvres, puisque je crois que c'est vous qui le mentionniez tout à l'heure, ces feuilles verticales, il leur rajoutait parfois.
Il les rallonge dans la partie supérieure.
Rallonge comme des paperoles de
Proust.
Comme
des paperoles. Oui.
Voilà.
Et Artaud a eu des périodes aussi où il n'arrivait plus à créer. C'est-à-dire quand on a beaucoup reproché au docteur Ferdière de lui avoir fait des électrochocs, mais ça a permis de rétablir une créativité. Et il est probable aussi que chez Georges Focus, il y a eu, quand on regarde la longueur de l'internement, ou du moins de la maladie, qu'il y ait eu des périodes de dépression, de moins de créativité, ou des périodes d'assèchement de sa productivité. Donc on en est vraiment réduit aux conjectures, c'est très difficile, ça a été très difficile pour moi de faire des hypothèses sur les troubles qu'il avait, mais plus le temps passe et plus ce rapprochement avec Artaud me paraît pertinent, parce qu'Artaud aussi avait une formation et un talent littéraire exceptionnel, il avait aussi dessiné, mais... La qualité de ses textes, même quand il a été profondément atteint par la maladie, reste tout à fait bouleversante,
oui,
mais est aussi marquée par les troubles mentaux. Et chez Focus, pour ce qui est du dessin, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé de l'art brut. On est chez quelqu'un qui a une formation de très haut niveau et dont les productions vont être... vont garder des qualités techniques remarquables, mais dont le thème, dont les thèmes, dont la façon de disposer son dessin sera quand même pour le psychiatre marqué par la bizarrerie, par le délire, par la désinhibition. Et
la peur du vide, une sorte d'agoraphobie.
Il y a aussi le fait qu'il n'y a aucun vide sur les dessins, et ni aucun vide au dos des dessins. Donc, si vous voulez, beaucoup de gens qui ont visité l'exposition font ce rapprochement avec l'art brut, mais c'est exactement le contraire.
Voilà. Mais l'art brut est une catégorie, de toute façon, qu'on remet en cause, je pense. Mais effectivement, on est plus proche, Emmanuel Brugerolles, d'un personnage comme Messerschmitt, par exemple, qui lui aussi était au service de l'empereur, un extraordinaire sculpteur classique, et qui développe une œuvre qui aujourd'hui nous fascine beaucoup plus que son œuvre classique, son œuvre que à l'époque on aurait dû peut-être trouver comme réussie, et qui nous apporte ce qu'on cherche dans l'art, c'est-à-dire aller aux limites de l'humain et aller le plus loin possible dans la conscience.
Sauf que Focus est un siècle avant. Donc ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est la première fois qu'on voit des dessins aussitôt. Dans ce domaine. Et pour rebondir sur ce que disait Bernard, en effet, ces dessins sont d'une imagination. Il fait preuve d'une imagination tout à fait extraordinaire et d'une invention fabuleuse, libérée en effet des règles classiques, mais néanmoins nourrie d'une culture artistique et littéraire très importante.
Alors, est-ce que vous avez l'impression que son œuvre évolue pendant la période, les 10 ans dans lesquels vous l'avez? Parce qu'au fond, c'est quelque chose que très souvent on remarque dans les artistes dans l'art brut, par exemple, c'est une stabilité du style. Est-ce que là, vous sentez qu'il y a une évolution, qu'il y a une recherche, une...
Non, je vous rejoins complètement. Il y a une stabilité complète dans la manière de dessiner ses feuilles. En revanche, il y a des thématiques.
Alors ça, on n'en a pas parlé parce que les thématiques sont stupéfiantes. Est-ce que vous pouvez nous... Elles sont stupéfiantes parce qu'elles donnent l'impression d'être celles d'un homme libre qui est le spectateur de la scène du moment.
Alors d'abord, il aborde un peu le paysage, mais c'est terminé. Maintenant, on va passer à la peinture d'histoire. Donc, il traite des sujets tirés de l'Énéide, de Virgile, mais il ne va pas s'appuyer sur Virgile, mais sur le Virgile travesti de Scarron.
Oui, c'est
avec
une parodie.
Tout ce qu'il y a, voilà,
la grande parodie de l'époque.
De grotesque, avec un humour. Il a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour, il aime le côté un peu grotesque. Après, il développe une mythologie qu'il s'approprie qui est absolument fabuleuse, avec un bestiaire. On a d'ailleurs fait une annexe dans le catalogue. On voit un bestiaire qu'il s'approprie qui est extraordinaire.
Qui est un bestiaire de curiosité. On a l'impression de visiter un cabinet, un curiosa de l'époque.
Oui. Complètement. Et puis, il traite aussi énormément de sujets liés à sa vie, à son enfance, à sa période italienne et aussi à sa période durant l'Académie où là il y a des rancœurs par rapport aux académiciens de l'époque, notamment Charles Lebrun, mais aussi Testelin, etc. etc.
Donc, il y a une chose que je ne comprends pas, il y a le théâtre, donc les scènes sont tellement précisément décrites qu'on a l'impression qu'il y a été, donc il était quand même assez libre, ou c'est de mémoire, sans ça c'est hypermnésique.
C'est de mémoire.
On voit la tour de Nesle dans les paysages parisiens, on a l'impression d'être dans une gravure de Callot et que tout ça a été fait de chic, quasiment devant les scènes. Il n'y était pas.
Il les a vus enfants, et comme le dit Bernard souvent, la mémoire d'un aliéné est extraordinaire.
Bernard, vous confirmez ?
Oui, alors je trouve, notamment à cause de l'humour et de la profusion d'imagination, qu'il y a des éléments de ce qu'on appelle aujourd'hui la manie, enfin l'excitation, l'euphorie. Et dans ces moments-là, en effet, on peut observer une hypermnésie. C'est-à-dire que tout d'un coup, les souvenirs enfouis reviennent à la surface. Et donc on peut tout à fait considérer... que sans être devant le monument, ils puissent s'en souvenir, ou la même chose pour certains textes.
Parce que c'est plein d'enseignements, les dessins qu'il fait sont pleins d'enseignements sur le Paris de l'époque, les mises en scène de l'époque.
Les comédiens ambulants sur le Pont Neuf, ça c'est des vues extraordinaires, mais c'est fait de mémoire.
C'est impressionnant, vous êtes sûr? Moi, j'étais sûr qu'on le libérait dans la journée, qu'il revenait à la maison le soir.
Mais quand il est en Italie, vous avez vu ce qu'il, de mémoire, ce dont il se souvient?
Oui, en effet.
De Rix, dans les rues, comme on les évoque pour Caravage, que vous avez évoqué il n'y a pas longtemps avec Pierre Curie, où on se bagarre la nuit à Rome.
Il y a une rixe qui fait vraiment penser effectivement à ces bagarres des Hollandais volants de l'époque. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez dans son dessin qui vous fait penser aux grands artistes de l'époque, dans son dessin, dans cette période-là des 10 ans?
Alors, je dirais notamment, par exemple, vous avez un dessin qui représente la chute de Phaéton.
Qui est extraordinaire.
Qui est
vous pouvez nous l'écrire?
Alors, ça représente ce fameux char, le char d'Apollon que son fils veut conduire un beau matin. Et puis, évidemment, il ne sait pas le conduire. Donc, ça produit une catastrophe. C'est que ce char sombre dans le fleuve et va, évidemment, provoquer des catastrophes sur la Terre. Et on voit très très bien ces chevaux tombés avec ce char qui est décoré des signes du zodiaque et un paysage panoramique avec des nefs et des oiseaux fabuleux.
Les nuées sont dessinées d'une façon incroyable. Il y a un travail sur la turbulence du ciel, c'est au fond sur la turbulence de l'invisible, en quelque sorte. Est-ce que le thème de la chute ou du supplice n'est pas quelque chose qui revient souvent dans son travail, Bernard?
Il y a beaucoup de scènes de chute.
Et puis il y a des identifications au portement de croix, à la flagellation.
Christ.
Il y a en effet parmi les thèmes abordés, le thème mystique où Focus s'identifie au Christ. Où il y a des scènes, une série de scènes religieuses. Bon, ça fait partie des thèmes qu'il a traités. Et dans les écrits qu'il y a au dos des dessins, il y a un mélange de ce thème mystique, concernant la fronde, alors qu'il n'a pas vraiment vécu ces événements, l'histoire, son métier. Enfin, il y a ce qu'on appelle, nous, un délire paranoïde, au sens où c'est pas cohérent, c'est enchevêtré, mais je dirais que le texte au dos amplifie ce qu'on voit sur le dessin. C'est comme une espèce de loupe grossissante du désordre qu'on peut déjà percevoir dans le dessin.
Il y a quelque chose quand même, Emmanuel, corrigez-moi si vous vous trompez, c'est quand même le sentiment dans les supplices qu'il s'imagine subir, se prenant la position, en tout cas se portraiturant comme le Christ, c'est la souffrance. C'est quelqu'un qui souffre probablement énormément, Emmanuel ou Bernard?
Oui, certainement. Et puis il y a un thème de persécution aussi dans beaucoup de textes.
Notamment dans le Christ aux outrages, où là, ils sont complètement persécutés par l'Académie royale. Et ils représentent 4 recteurs de l'Académie qui sont pour lui des ennemis.
Oui. Alors, il supplie parfois d'avoir un peu de vin, ça, ce que je peux comprendre.
Oh, bah, il aime l'alcool, hein.
D'avoir du papier, d'avoir des choses. Et effectivement, il y a un moment où il se plaint, vous le rappeliez tout à l'heure, d'être volé. Peut-être on peut écouter un extrait d'un de ses textes sur ce sujet.
Testé à mort par moi, Focus, roi. Je laisse à Louis XIII et à Henri la honte qu'ils méritent. Et à leur parlement. Autant de coups de bâton sur le visage et de nasardes qu'ils m'ont tenu de jour enfermé contre tout droit humain. Nul ne se rendra plus le plus grand criminel du monde avec plus de générosité. Je ne m'appelle que Focus. Volé de mes écritures dessinées en toute façon et figuré de périodes de toute représentation au pinceau et à la plume.
Et nous parlons de Focus. Quel nom étrange! Dites-moi, Emmanuel Brugerolle, vous qui êtes la commissaire de cette exposition dont nous parlons dans l'art et la matière, Focus, c'est son nom?
Alors Focus, Mariette, que vous évoquiez en début d'émission, l'écrit soit F-O-C-U-S, soit F-A-U-C-U-S. Et en effet, il signe avec ses deux orthographes. Est-ce qu'il a latinisé son nom à un moment donné?
Ça se faisait, il y a d'autres artistes à l'époque qui latinisent leur nom.
Ça reste mystérieux parce que les archives nous résistent, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, ça nous résiste, on n'a pas son acte de naissance.
C'est ça qui est excitant dans l'exposition, c'est que voilà. C'est une exposition d'investigation sur un génie oublié, reconnu par vous, et donc c'est d'autant plus passionnant. Parlez-moi un instant, Bernard, souffrance, le mot est chez Artaud, on le sait, parce qu'il y a eu cette terrible violence qui a quasiment brisé son dos, si je puis dire, mais
Focus. Il ne faut pas assimiler Focus à Artaud, bien entendu, il y a d'immenses différences. La première différence, c'est que on a très peu d'éléments biographiques quand même sur Focus. Et on doit s'appuyer sur les textes, mais quelle valeur leur accorder, quelle valeur factuelle leur accorder, c'est très difficile à dire sur les dessins. Mais là, ce sont des éléments objectifs. Mais pour tout le reste, on a très peu d'éléments. Il n'y a aucune observation médicale le concernant. Dans les archives des petites maisons, il n'y a aucune trace de son passage.
En fait, les seules archives qu'on a, c'est quand il était à l'Académie où avez montré le registre dans à l'École des Beaux-Arts dans votre exposition où on voit présent, absent,
etc. Oui, et il signe les procès-verbaux. Donc là, il y a
du nom de Focus.
Focus, F-O-C-U-S.
Mais ce qui est sûr, c'est que vous parliez de souffrance. C'est évident qu'il se sent persécuté, en proie aux violences de ses collègues, en proie aux violences de l'histoire. Il s'assimile au Christ, mais pas le Christ triomphant, le Christ souffrant. Et c'est vrai que ce qui ressort quand même de tous ces textes, c'est d'un certain côté beaucoup d'humour, de fantaisie, mais de l'autre, un fond de souffrance terrible.
Est-ce que il y avait des moyens à cette époque-là utilisés pour soulager des souffrants ?
Pas vraiment. Enfin, on utilisait certaines plantes, mais enfin les moyens thérapeutiques étaient réduits au minimum et n'avaient pas vraiment d'efficacité. Si on compare avec aujourd'hui, rien de commun, bien entendu, rien de commun.
Comment est-ce qu'était c'est pas je sais pas comment ça s'appelle ce genre de diagnostic que je vous demande. D'ailleurs, si vous étiez sérieux, vous n'y répondriez pas. Mais comment un médecin de l'époque pouvait analyser cela ? On disait qu'il souffrait de quoi ?
Alors à l'époque, ça a été traité par le professeur Coste qui a décrit les petites maisons et a fait ce qu'il appelle, ce que nous appelons le diagnostic rétrolectif, c'est-à-dire le diagnostic avec les termes de l'époque. À l'époque, la classification psychiatrique n'était pas fixée, pas plus d'ailleurs qu'elle n'est aujourd'hui. Bon, on parlait de folie, pas de psychiatrie. Mais on distinguait la mélancolie de la manie, mais pas au sens où on la distingue aujourd'hui. La mélancolie, c'était un délire partiel, et la manie, c'était quand vraiment le psychisme était complètement désorganisé. Donc, Focus entre dans cette catégorie.
Emmanuel Brugerolles, dans ce Focus que nous aimons et que nous admirons du XVIIIe siècle, que vous nous avez fait découvrir, il y a par moments aussi un grand anticléricalisme. On sent que le pape apparaît ridiculisé dans certains dessins. Ça fait partie des thèmes qu'il aborde.
Oui, il aborde en effet. Bah, déjà, il se prend pour le Christ. Donc déjà, il y a des thèmes religieux autour de ça. Et ensuite, contre la papauté, il y va. Mais il y va aussi... pour le politique, hein. Il y a Anne d'Autriche, il n'a pas l'air de l'aimer beaucoup non plus. Hein. Donc, il a beaucoup de haine, hein, beaucoup
il
de rancœur.
Beaucoup de haine contre le Brun,
contre
les puissants.
Oui.
Alors, écoutons peut-être un texte que j'aime beaucoup parce que je trouve que dans les sonorités, il y a quelque chose qui me fait penser à celui qui, pour moi, est un des plus grands poètes du XXe siècle et qui est aussi un violon dingue puisqu'il est aussi artiste, c'est Gerasim Louka. Écoutons ce poème qui s'appelle « Terme du pape ».
Ici la toupie, liée, dit tout seul son chapelet. L'on voit sa piété par tous les attributs du pie, car l'on y voit la Margot, aussi la porte-pie et tous les papillons de la piété papale, et sa fidélité au coq à nul autre égale.
C'est amusant, hein. Égal, le coq, le gallinacé, etc. Enfin, il y a une finesse de relation et c'est cousu à l'intérieur, très savamment, Emmanuel Brugerolles.
Oui, alors la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps il pouvait mettre pour faire ce dessin, ces écritures dessinées. Alors, on s'est posé beaucoup la question et on s'était fixé peut-être une dizaine de jours
pour faire
ce
un dessin.
Dessin. Ouais.
Est-ce que c'est un des dessins qu'ils ont fait en transe, Bernard ?
Je ne dirais peut-être pas en transe, mais avec une certaine frénésie créatrice. On le voit dans certaines pathologies, quelqu'un est capable d'écrire toute la nuit, de noircir un cahier très vite, ou de dessiner. Moi, j'ai une patiente récemment qui en quelques jours a fait une grande quantité de dessins, mais c'est pas un état de transe, c'est plus une pulsion créatrice qu'on ne peut pas arrêter.
Parce que...
mais je dirais que pour Focus, il y a quand même une maîtrise qui fait qu'on peut même parler de frénésie, c'est peut-être excessif. Et la durée que vous indiquez est quand même suffisamment longue pour que le travail soit...
Vous croyez Emmanuel quand elle dit cette durée-là ?
Je crois, en général, je crois Emmanuel parce qu'elle connaît tout ça bien mieux que moi.
Mais est-ce que ça ne s'oppose pas, cette idée de frénésie ? Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y avait une préparation au dessin.
Oui, il y a du graphite, il y a une pierre noire.
Oui.
Il a, dans un premier temps, esquissé son projet sur le papier. Et ensuite, il appose sa plume. Ça, c'est évident. Ça, on l'a bien vérifié.
Donc, ça retient, ça montre l'intentionnalité de l'ensemble. On n'est pas, effectivement, uniquement dans une pulsion. Il y a une construction. Mais ensuite, probablement, il y a ce désir de ne pas... De remplir. De continuer, quoi. D'aller au-delà du projet.
Mais ceci dit, à un moment donné, il s'arrête puisqu'il signe.
Et la plupart des planches sont signées. Je n'avais pas fait attention.
Focus.
Oui.
Focus in winit. Déliné à 8, comme on procède quand on grave, inventé, dessiné, et focus moi roi, focus moi empereur, oui, l'œuvre est finie.
Là, il y a quelque chose que il y a plein de choses que je comprends pas, c'est ça, c'est chouette de vous avoir, c'est, il avait, vous disiez tout à l'heure, la conscience dans la liberté que lui donnait la marginalité, si je puis dire. Il avait la conscience de faire une œuvre. Effectivement, dans ses dessins qu'il a complétés pour qu'ils soient tous au même format, enfin, il a fait attention à ce qu'il y ait une homogénéité, comme si ça allait être exposé, en quelque sorte.
Ou gravé, parce qu'on se demande si la série de l'Énéide, il n'y a pas un vrai projet derrière. Mais bon.
Est-ce qu'il était dans une situation qui aurait pu lui laisser un espoir?
Il connaissait très bien le milieu des graveurs, puisqu'il était aquafortiste lui-même. Il a gravé lui-même ses paysages avant de devenir fou, avant 1683.
Est-ce que vous pensez qu'il a été visité ? Est-ce que des amis venaient le voir ? Bernard, vous n'en savez rien.
En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il a bien fallu donner 300 livres chaque année pour qu'il reste aux petites maisons.
Donc sa famille, en tout
cas... Sa famille, on ne sait rien sur sa famille. Est-ce que c'est le roi ? Est-ce que c'est l'académie ? On ne sait pas qui a donné.
C'est quoi le régime, Bernard ? C'est quoi le régime des petites maisons ?
Il fallait payer une pension. Mais
et c'était pas la Sécu.
L'argent n'a pas d'odeur. C'est-à-dire que ça pouvait être la famille, ça pouvait être effectivement le roi, un mécène. On ne sait pas. Mais je vous répète, pour Focus, on n'a aucun élément sur son séjour aux petites maisons. On sait qu'il y a été. Mais les archives ont été perdues. Enfin, dans ce qui reste des archives, on n'a pas trouvé mention de son nom.
Alors, moi, je dirais que Emmanuel, ce mystère qui subsiste participe à cette aventure qui reste stupéfiante.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-moi comment les dessins, ensuite, ils étaient aux petites maisons, c'est la famille qui les a récupérés, ils sont partis où ? Il y a des dessins qui ont été reliés, dont parle Mariette, par qui ? Ils sont où aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, tout simplement, c'est Mariette qui nous informe. C'est par Mariette...
Alors, dites-nous.
Puisque vous avez passé cet extrait au début de l'émission, Mariette indique l'existence d'un recueil...
Mais qui a eu l'idée de recueillir cela ? Parce qu'il faut quand même un œil qui ne correspond pas à l'œil de l'époque.
Alors, le recueil passe en Prusse et ensuite, il est acheté par le conservateur, le bibliothécaire, au XIXe siècle, à l'Université d'Édimbourg. Et parallèlement, il y a 25 dessins qui restent en France, dans cette collection particulière parisienne et qui se transmet depuis le XVIIIe siècle de génération en génération.
Comment est-ce que vous imaginez, vous qui êtes conservatrice, qu'au XIXe siècle, il y ait pu y avoir quelqu'un de suffisamment ouvert, averti, pour trouver intéressant ce qui était contre tous les codes esthétiques de la période ?
Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans la collection particulière parisienne, il y a des feuilles qui accompagnent les dessins avec des commentaires faits à la fin du XVIIIe siècle, qui sont des commentaires qui ne tentent pas de transcription des textes qui figurent dans les phylactères, mais qui sont des commentaires allégoriques et moraux témoignent de l'esprit de l'époque.
Vous n'êtes pas d'accord, hein, vous, quand je vous ai vu hausser les sourcils quand j'ai dit quelqu'un de l'époque n'aurait pas pu regarder ou deviner, déceler la qualité du projet.
Oui, enfin, il ne faut pas croire que tous les gens sont obtus et n'aiment que l'académisme. Parce que
j'aime bien quand vous vous fâchez, c'est pas mal.
La qualité du dessin, je crois, ne pouvait pas échapper à un esthète, un amateur, pour ça qu'ils ont été conservés.
Ils ont été conservés.
Emmanuel, ils ont été conservés assez précieusement, reliés.
Ils ont été conservés.
Expurgés, néanmoins.
Ah oui. Saint-Mariette le dit, et on en a la preuve.
Oui, parce que j'ai vu dans l'exposition qu'il y a des parties découpées.
Et dans le phylactère, Focus précise que sur ce dessin figure ce jeune adolescent qui est Focus, qu'il a beaucoup bu et il s'est mis tout nu devant une dame. Donc, évidemment, le dessin a été tronqué.
Oui, mais la vie est comme ça.
Voilà.
Et écoutez, j'aimerais bien qu'on entende un dernier texte, si vous voulez bien. C'est un texte que j'aime bien parce qu'il est chantant. Et au fond, je trouve que sa créativité de dessinateur et sa créativité d'écrivain se rejoignent incroyablement.
Morphée, ici songe fait en deux digues, Nandès de digues, né de la scie pour la décade, de la ville d'Avin dit l'escarbot de Saint-Martin sous la Jonquiade, et la conquête du Rhin éléphante les tours de la Bastille, addictonnant par ses bons dents de la mille, raie de leur culasse, la dromadaire âne pique la mule, des lingues disent de l'éperon de galon, et de Malte comme le vicomte de Jodelet en grand canon, et belle cravate, niobée pour l'honneur des nobles mitres, Jodelet dut perdre sa cravate.
Quel talent quand même. Nous sommes en train d'explorer le talent de Georges Focus, un peintre de l'époque de Louis XIV, oublié et retrouvé par Emmanuel et qui est montré en ce moment donc au Palais des Beaux-Arts à Paris. Nous sommes donc à l'époque de Louis XIV. Ce texte est assez étonnant. Est-ce que vous pensez, Emmanuel Brugerolles, qu'il y a d'autres textes d'époque qui sont comparables à ça? Est-ce qu'il y a une recherche littéraire de cette folie-là? Parce qu'au fond, la folie, pensée à l'époque de Bosch, on la fréquentait volontiers.
Je pense qu'en tout cas, le côté burlesque, grotesque, oui, évidemment qu'elle est présente dans la littérature de l'époque de Focus, mais je crois que là, il fait vraiment preuve d'invention littéraire également.
Est-ce que vous avez été aussi sensible à la partie littéraire qu'à la partie plastique de son travail, Bernard ?
J'y étais sensible, mais peut-être à travers les lunettes qu'on m'a demandé de porter, c'est-à-dire les lunettes du clinicien et du psychiatre. Alors c'est vrai que c'est très réducteur, c'est vrai que ça occulte peut-être la poésie et la beauté de ses textes, mais... On y voit quand même une certaine désarticulation du langage, et puis ces associations par assonance, par allitération, qui sont aussi caractéristiques des textes, qui font partie de la sémiologie, si vous voulez, de certains états psychotiques. Donc moi, je les ai vus sous cet angle, mais quand on les écoute, c'est vrai qu'il y a une musique très particulière, il y a une beauté, et... on peut voir aussi ces textes comme un complément à l'œuvre dessinée, c'est-à-dire comme une création littéraire. Et à ce moment-là, vu sous cet angle, ça a une modernité tout à fait exceptionnelle.
C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qu'on pourrait imaginer en recueil simplement comme texte, Emmanuel Brugerolles.
Oui, et peut-être chanter aussi.
Et peut-être chanter. Oui. Vous avez tenté l'expérience ?
On n'a pas tenté l'expérience de le chanter, mais en tout cas, nous avons un comédien qui est Philippe Burin de Rosier, qui donc déclame les vers de Focus dans l'exposition. Donc je vous invite à venir l'entendre.
Donc, c'est-à-dire qu'on aura juste le temps d'entendre l'émission et se précipiter à l'École des Beaux-Arts quelques minutes plus tard, si on a la chance d'habiter à Paris.
Quai Malaquais.
Dites-moi, puisque vous êtes dans un lieu de création contemporaine, est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt particulier par le contemporain ou pour le contemporain d'un regard sur Focus, car j'imagine que étant dans un lieu d'art contemporain, ça a dû vous traverser l'esprit.
Alors je l'ai vécu, Parce que pendant l'exposition, nous avons une équipe qui participe à l'accrochage et cette équipe est constituée d'étudiants de l'école. Et je peux vous dire qu'ils ont été envoûtés. Envoûtés de jour en jour.
Qu'est-ce que vous pensez que l'art contemporain peut retenir de ce genre de travail ?
Le foisonnement, l'invention délirante de l'artiste, la beauté des dessins. Ils sont surpris. Ils sont... Vraiment, c'est une immense découverte pour eux. Et ça leur parle tout de suite.
Oui, il y a un point qui m'a beaucoup surpris et que j'ai trouvé d'une qualité inouïe, qui correspond à l'invention peut-être de l'époque, c'est tous les animaux fantastiques. Parce qu'il n'y a pas seulement du réalisme qui est là, effectivement, beaucoup de scènes sont d'un réalisme extraordinaire, mais il y a un imaginaire dans la représentation d'animaux, il y a un éléphant étrange. Vous pouvez nous en parler ?
Alors d'abord, il y a des références, hein, notamment le rhinocéros de Dürer.
Oui.
Que tous les artistes connaissaient.
Parce que les gravures de Dürer circulaient, évidemment. Vous en avez d'ailleurs beaucoup à l'École des Beaux-Arts. Et on retrouve exactement le même système de côtes, comme ça, on sent la
carapace.
La carapace parfaitement faite par Dürer.
Et... Voilà, et donc là, il l'a en mémoire. Donc il s'en inspire. Et puis, il y a des animaux qu'il reproduit parfaitement.
Hein, c'est des animaux
oiseaux qu'il connaît,
si conventionnels.
Ouais. Et puis ensuite, il s'invente un univers d'animaux fabuleux, des éléphants dromadaires, toutes sortes d'animaux.
En fait, on sent la fin d'un monde magique et le début d'un monde de la raison. Et lui, par sa déraison, est entre les deux, non ? Quelque chose comme ça, Bernard ?
C'est une interprétation, c'est une façon élégante de présenter les choses.
J'aime bien parce que vous êtes très réservé et je sens que j'ai dû un petit peu exagérer. Mais bon.
Non, mais ça laisse ouvert tout un tas d'interprétations. Et j'espère que certains de mes collègues psychiatres vont se pencher sur cette œuvre et vont offrir d'autres interprétations que celles que j'ai faites. Enfin, je me suis d'ailleurs gardé de faire toute interprétation. J'ai essayé d'avoir un regard très clinique, très objectif, au sens où on recherche certains symptômes. Mais si on se lance dans une interprétation psychanalytique, on peut écrire des livres entiers.
Donc Emmanuel Brugeois, vous avez aimé cette aventure de d'accompagner Georges Focus pendant combien de temps ?
Alors évidemment, je ne l'ai pas fait toute seule. Hein, c'est une équipe. C'est une équipe qui a travaillé longtemps, plus de 5 ans.
Plus de 5 ans, oui,
pour faire cette exposition. Et qui a rassemblé à la fois, c'est ça qui m'a beaucoup plu, des historiens de l'art, des historiens de l'histoire de la médecine, un psychiatre. Voilà, c'était cette équipe-là qui a été formidable. Et d'abord de transcrire tous les textes qui figuraient sur ces dessins. Ça a été un travail colossal.
Merci Emmanuel Brugeois pour ce travail colossal. Merci beaucoup Bernard Granger pour votre point de vue singulier et qui nous permet de découvrir et d'approfondir notre connaissance de Georges Focus.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, nous avons découvert l'univers si singulier de cet artiste du XVIIIe siècle, Georges Focus, exposé au Palais des Beaux-Arts jusqu'au 10 janvier. C'était une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata, prise de son Guillaume Ledu, réalisation Doria Zénine, lecture des textes Lara Brûle. Merci pour votre belle voix, Lara. La semaine prochaine, ce sera Bruegel et ça va être passionnant. Chers auditeurs, à 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.